Lettre de Mina Harker à Lucy Westenra, non ouverte par la destinataire. 17 septembre. Ma très chère Lucy, il me semble qu'il y a un siècle que je suis sans nouvelles de toi, ou plutôt un siècle que je ne t'ai pas écrit. Tu me pardonneras, j'en suis certaine, quand tu auras lu tout ce que j'ai à te raconter. Tout d'abord, j'ai ramené ici mon mari. Quand nous sommes descendus du train à Exeter, une voiture nous attendait, dans laquelle, bien qu'il souffrît d'une attaque de goutte, se trouvait Mr. Hawkins. Il nous a emmenés chez lui, où l'on nous avait préparé de belles chambres confortables, et où nous dînâmes tous les trois. Après le repas, Mr. Hawkins nous dit « Mes amis, je bois à votre santé et à votre bonheur dans la vie. Puissiez-vous connaître beaucoup de joie profonde. L'un et l'autre, je vous ai connus enfants, et c'est avec fierté et tendresse que je vous ai vu grandir. Aujourd'hui, je veux que vous soyez ici, chez vous. Je n'ai pas d'enfants. Je suis seule au monde. Et par testament, je vous ai laissé tous mes biens. » Je ne pus retenir mes larmes, ma chère Lucy. Tu le comprendras. Tandis que Jonathan et Mr. Hawkins se serraient longuement les mains. Cette soirée fut si heureuse. Nous sommes donc installés dans cette belle vieille demeure, et de ma chambre à coucher comme du salon, je vois les grands ormes de l'enceinte de la cathédrale, leurs grosses branches noires se détachant sur la pierre jaune de l'édifice, et du soir au matin, j'entends les corneilles qui ne cessent de passer et de repasser au-dessus de nous, en croissant, en bavardant, comme savent bavarder les corneilles, et aussi les femmes et les hommes. Dois-je te le dire ? Je suis fort occupée à arranger la maison, à monter mon ménage. Quant à Jonathan et Mr. Hawkins, ils travaillent toute la journée, car maintenant que Jonathan est son associé, Mr. Hawkins tient à le mettre au courant des affaires de chacun de ses clients. Comment va ta chère maman ? Je voudrais aller passer un jour ou deux chez toi, mais il m'est difficile de quitter la maison, ayant tant à faire. D'autre part, si Jonathan va bien, il n'est pas encore complètement guéri. Il se remplume un peu, mais il reste très faible. Encore maintenant, il sursaute parfois dans son sommeil et s'éveille tout tremblant. Il me faut alors beaucoup de patience pour réussir à le calmer. Dieu merci, ces crises deviennent de moins en moins fréquentes et j'ose espérer qu'elles disparaîtront tout à fait. Et maintenant que j'ai dit tout ce qui me concernait, laisse-moi te demander de tes nouvelles. Quand te maries-tu ? Et où ? Qui célébrera la cérémonie ? Quelle robe auras-tu ? Inviteras-tu beaucoup d'amis ? Ou bien faites-vous cela dans l'intimité ? Réponds-moi à toutes ces questions, ma chérie, car tu sais combien je pense à toi, combien je m'intéresse à tout ce qui te tient au cœur. Jonathan me demande de te présenter ses hommages respectueux, mais je juge cela insuffisant de la part du jeune associé de la firme importante Hawkins & Harker. Aussi, comme tu m'aimes et qu'il m'aime, et que moi je t'aime de tout mon cœur, je crois préférable de t'envoyer ses amitiés. Au revoir, ma très chère Lucy, avec mille vœux de bonheur. Ta Mina.
Rapport de Patrick Hensey à John Seward, 20 septembre. Mon cher confrère, ainsi que vous avez bien voulu me le demander, je vous fais part de l'état des malades que j'ai vus. En ce qui concerne Renfield, il y a beaucoup à dire. Il a eu une nouvelle crise qui, alors que nous aurions pu craindre le pire, s'est terminée sans conséquences fâcheuses. Il faut savoir que cet après-midi, un camion conduit par deux hommes est venu à la maison abandonnée dont le parc jouait le nôtre, cette maison vers laquelle, vous vous en souvenez, notre malade s'est enfui à deux reprises déjà. Ces deux hommes se sont arrêtés devant notre grille pour demander leur chemin au portier, car, ont-ils dit, ils sont étrangers dans le pays. J'étais à ce moment-là à la fenêtre du bureau, fumant une cigarette après le déjeuner, et moi-même j'ai donc vu l'un des deux hommes qui se dirigeait vers la loge. Comme il passait sous la fenêtre de Renfield, celui-ci, de l'intérieur de sa chambre, s'est mis à l'injurier. L'autre, qui, ma foi, avait l'air fort convenable, s'est contenté de lui crier qu'il n'était qu'un grossier personnage et qu'il n'avait qu'à la fermer, sur quoi Renfield cria que non seulement ce type l'avait volé, mais qu'il avait voulu le tuer, et il ajouta que, la prochaine fois, il saurait comment l'empêcher de lui nuire. Dût-il être pendu ? J'ouvris ma fenêtre et fis comprendre au camionneur qu'il ne fallait attacher aucune importance à ses propos, de sorte que, après avoir parcouru des yeux la façade de la maison et compris enfin où il se trouvait, il déclara tout simplement « Dieu vous bénisse, monsieur, peu importe en effet ce qu'on me dit chez les fous. Mais je vous plains, vous le patron, de devoir vivre avec ces bêtes furieuses. » Puis, assez poliment, il m'a demandé comment on arrivait à la grille de la maison abandonnée. Je lui indiquai le chemin et il s'en alla, Renfield l'accablant toujours d'injures et de menaces. Alors je descendis chez notre malade, me demandant si je décèlerais quelque cause à sa colère. Je fus étonné de le trouver très calme et de bonne humeur. J'essayai de le faire parler de ce qui venait de se passer, mais il me demanda ce que je voulais dire comme si, vraiment, il ne se souvenait plus de rien. Ce n'était malheureusement qu'un nouvel exemple de son astuce, car moins d'une demi-heure plus tard, il fit encore parler de lui. Cette fois, il avait sauté par la fenêtre de sa chambre et il descendait l'allée en courant. J'appelai les surveillants et leur dis de le rattraper à tout prix, car je craignais qu'il ne voulût faire quelque malheur. Je ne me trompais pas. Un moment après, je vis le camion revenir vers nous, chargé maintenant de grandes caisses. Les camionneurs s'épongeaient le front et ils avaient le visage encore tout rouge, comme s'ils avaient fait de violents efforts. Avant que je pusse rattraper notre malade, il se précipita sur le camion et, saisissant l'un des hommes et l'obligeant à descendre, il se mit alors à frapper la tête de sa victime contre le sol. Si je n'étais enfin arrivé près de lui à ce moment-là, je crois qu'il aurait tué l'homme. L'autre camionneur, sautant de voiture, du manche de son fouet, lui asséna des coups qui devaient le faire souffrir horriblement. Pourtant, on aurait pu croire qu'il ne les sentait même pas, car il se tourna vers le second camionneur, puis c'est contre nous trois ensuite qu'il lutta, nous secouant d'un côté puis de l'autre, avec autant de facilité, semblait-il, qu'il eût secoué de jeunes chats. Oh, vous savez pourtant que je ne pèse pas rien, et les deux autres étaient de forts gaillards. Au début, il se battit sans prononcer un mot, mais comme peu à peu nous parvenions à le maîtriser et que mes aides lui mettaient une camisole de force, il commença à crier « Je déjouerai leur plan, ils ne me voleront pas, ils ne me tueront pas, je me battrai pour mon seigneur et maître. » Et il continua à lancer toutes sortes d'insanités. Nous eûmes beaucoup de difficultés à le ramener à l'établissement puis à l'enfermer dans le cabanon. Hardy, un des surveillants, a même eu un doigt démis dans la bagarre. Mais je le lui ai remis aussitôt et le pauvre garçon ne souffre plus. Quant aux deux camionneurs, d'abord ils nous menacèrent de porter l'affaire devant les tribunaux et pourtant, mêlés à ces menaces, on devinait comme des regrets, des excuses de s'être laissés tous deux battre par un pauvre démon. Ils prétendaient que s'ils ne s'étaient pas donné tant de mal pour transporter les caisses, c'est eux, au contraire, qui auraient eu le dessus. Mais ils donnaient une autre raison encore à leur défaite, leur soif quasi insupportable après ce travail qui les avait couverts de poussière. Pour comble de malheur, aucune taverne à leur connaissance ne se trouvait dans les environs. Je compris parfaitement où ils voulaient en venir, et quand je leur eus fait boire à chacun un bon grog, ou plutôt deux, et glissé un souverain dans la main, ils ne parlèrent plus de l'incident que pour en rire, et formèrent le vœu de pouvoir se battre un jour contre un fou plus détraqué encore. Je pris leur nom et leur adresse au cas où l'on aurait besoin d'eux. Les voici. Jack Smollett, de Duddings Rents, King George's Road, Great Walworth, et Thomas Snelling, Peter Foley's Row, Guide Court, Bethnal Green. Ces deux hommes travaillent chez Harris & Sons, déménagement et expédition par mer, Orange Master's Yard, Soho. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe ici d'important et je vous télégraphierai immédiatement s'il y a lieu. Votre dévoué, Patrick Hennessy.
Mina Harker à Lucy Westenra. Lettre restée non ouverte par la destinataire. 18 septembre. Ma très chère Lucy, il nous arrive un bien grand malheur. Mr. Hawkins vient de mourir inopinément. Certains, peut-être, comprendront mal que nous ayons tant de chagrin, mais tous deux, nous l'aimions maintenant au point qu'il nous semble avoir perdu un père. Pour moi, je n'ai pour ainsi dire pas connu mes parents, et quant à Jonathan, s'il est cruellement frappé dans l'affection qu'il avait pour cet homme exceptionnellement généreux et qui le considérait comme son propre fils, Cette disparition le laisse désarmé, à un autre point de vue encore. Le sentiment de toutes les responsabilités qui à présent vont lui incomber déjà le rend plus nerveux. Du moins le dit-il, et il commence à douter de lui-même. Pourtant, je l'encourage de mon mieux, et la confiance que j'ai en lui lui donne plus de confiance en lui-même. Car c'est là le pire résultat du choc terrible dont il a été victime. Auparavant, il était si courageux, si énergique. S'il en fallait une preuve, ce serait l'estime que lui a précisément témoigné le pauvre Mr. Hawkins en faisant de lui son associé. Il est dur de penser que les grandes qualités que la nature lui avait données sont réduites à ce point. Pardonne-moi, ma chérie, si je viens troubler ton bonheur en te parlant de mes soucis. Mais il me faut en parler à quelqu'un, car devant Jonathan, je m'efforce de paraître contente et courageuse, et cela est épuisant quand on ne peut se confier à personne. Je redoute la journée d'après-demain. Nous devrons aller à Londres, une des dernières volontés de Mr. Hawkins étant d'être enterré auprès de son père. Et comme il n'avait plus de parents, même éloignés, c'est Jonathan qui conduira le deuil. Mais j'essayerai d'aller te voir, ma chère Lucie, ne serait-ce que pendant quelques minutes. Pardonne-moi encore tous ces détails. En te souhaitant mille bonnes choses, je reste ta grande amie, Mina Harker.
Journal du docteur Seward, 20 septembre. Ce soir, seule la volonté et aussi l'habitude me font reprendre ce journal. Je me sens malheureusement abattu, découragé, comme si j'en avais assez du monde et de tout, oui, de la vie elle-même. Au point que l'ange de la mort me laisserait parfaitement impassible si je l'entendais en ce moment battre des ailes. Il est vrai que nous l'avons entendu passer ces derniers jours. D'abord la mère de Lucie, puis le père d'Arthur, et maintenant... Mais que je poursuive mon récit. Je retournai donc au chevet de Lucie pour permettre à Van Helsing d'aller se reposer. Tous deux nous conseillâmes à Arthur d'en faire autant, mais d'abord il refusa. Toutefois, lorsque je lui eus expliqué que nous aurions peut-être besoin de son aide au cours de la journée et qu'il nous fallait éviter que le manque de sommeil ajoutât encore à notre fatigue, il y consentit. Van Helsing se montra très bon pour lui. « Venez, mon enfant, lui dit-il. Vous êtes épuisé par l'angoisse et le chagrin, cela ne se comprend que trop. Vous ne devez pas rester seul, car la solitude nourrit l'anxiété. Venez avec moi au salon, où il y a un bon feu et deux sofas. Vous vous étendrez sur l'un, moi sur l'autre, et d'être l'un près de l'autre nous réconfortera, même si nous ne parlons pas, même si nous nous endormons. » Arthur sortit de la chambre avec lui, non sans avoir arrêté longuement sur la pauvre Lucie un regard douloureux et aimant. Elle restait immobile dans son lit et, semblait-il, dépérissait à vue d'œil. En regardant autour de moi, je m'aperçus que le professeur n'avait pas renoncé à utiliser les fleurs d'ail. Il en avait encore frotté les fenêtres dans cette chambre, comme dans l'autre. Partout, on en sentait fortement l'odeur. Et autour du cou de la jeune fille, par-dessus le mouchoir de soie qu'il voulait qu'elle gardât tout le temps, il en avait à la hâte tressé une nouvelle guirlande. Lucie n'avait jamais paru aussi mal. Sa respiration était stertoreuse, sa bouche ouverte laissait continuellement voir ses gencives exsangues. Ses dents paraissaient plus longues, plus pointues encore que le matin même, et à cause d'un certain effet de lumière, on avait l'impression que les canines étaient encore plus longues et plus pointues que les autres dents. Je venais de m'asseoir auprès du lit quand elle fit un mouvement comme si elle souffrait. Au moment même, quelque chose vint cogner contre la vitre, j'allais lentement jusqu'à la fenêtre, soulever un coin du store, et regardez, il y avait un clair de lune, et je vis une grosse chauve-souris qui passait et repassait, sans doute attirée par la lumière, faible cependant de la chambre à coucher. À tout moment, ses ailes venaient effleurer le carreau. Quand je revins m'asseoir près du lit, Lucie avait légèrement changé de position et avait rejeté les fleurs qui lui entouraient le cou. Je les remis aussi bien que je pus. Elle ne tarda pas à s'éveiller. J'essayai de lui faire prendre un peu de nourriture, comme Van Helsing me l'avait recommandé. C'est à peine si elle toucha à ce que je lui présentais. On eût dit que l'avait même abandonné maintenant cette force inconsciente qui jusqu'ici l'avait poussée à lutter contre la maladie, comme si elle avait voulu guérir à tout prix. Je fus frappé par le fait qu'au moment même où elle s'éveilla, elle serra contre elle la couronne de fleurs, car, chose étrange, chaque fois qu'elle sombrait dans cet état léthargique où sa respiration devenait très difficile, elle écartait les fleurs. Chaque fois, au contraire, qu'elle s'éveillait ou était sur le point de s'éveiller, elle les saisissait comme si elle avait voulu les presser davantage contre elle. Il m'était impossible de me tromper à ce sujet. Durant les longues heures qui suivirent, à plusieurs reprises, elle se réveilla et se rendormit, et ce furent tour à tour les mêmes gestes. À 6 heures du soir, Van Helsing vint prendre ma place. Arthur s'était finalement assoupi et le professeur le laissa dormir. Quand il vit Lucie, j'entendis son petit sifflement et il me dit tout bas, mais sur un ton vif, « Levez le store, j'ai besoin de voir clair. » Il se baissa et son visage, touchant presque celui de Lucie, il procéda à un examen minutieux. Pour ce faire, il écarta les fleurs, souleva le mouchoir de soie. Aussitôt, il sursauta et son cri s'étrangla dans sa gorge. « Mon Dieu !» À mon tour, je me penchai, et ce que je vis me fit frémir assez étrangement. Les blessures à la gorge avaient complètement disparu. Pendant 5 minutes au moins, Van Helsing resta là à regarder la pauvre enfant, l'air plus consterné, plus grave que jamais. Puis lentement, il se retourna vers moi et me dit avec calme « Elle est en train de mourir, cela ne tardera plus maintenant. Mais entendez-moi bien, qu'elle meure dans son sommeil ou non, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Allez veiller ce pauvre garçon qu'il vienne la voir une dernière fois. Il attend que nous l'appelions, nous le lui avons promis. » Je descendis dans la salle à manger et j'éveillai Arthur. Il lui fallut un bon moment pour reprendre ses esprits, mais lorsqu'il s'aperçut que les rayons du soleil entraient par les interstices des persiennes, il pensa que le jour était plus avancé encore qu'il ne l'était en réalité. Je lui dis que Lucie dormait toujours, mais je lui avouai peu à peu que nous craignions, Van Helsing et moi, que la fin ne fût proche. Se couvrant le visage des mains, il se laissa glisser à genoux contre le sofa. Il demeura ainsi quelques minutes en prière, la tête enfoui dans les mains et les épaules secouées par les sanglots. Pour qu'il se relevât, je le pris par la main. « Allons, mon vieil ami, lui dis-je, soyez courageux, ne serait-ce que pour elle. » Dès que nous entrâmes dans la chambre de Lucie, je vis que Van Helsing, toujours plein d'attention délicate, avait fait en sorte que tout eût l'air aussi naturel, j'allais dire aussi gai que possible. Il avait même brossé les cheveux de Lucie répandus sur l'oreiller avec leurs beaux reflets pareils à ceux de la soie. Nous étions à peine entrés qu'elle ouvrit les yeux, et voyant son fiancé, elle murmura doucement « Arthur, mon amour, comme c'est bien que vous soyez là. » Il se penchait pour l'embrasser, mais Van Helsing le retint. « Non, murmura-t-il, non, pas encore. Mais prenez-lui la main, cela la réconfortera bien davantage. » Arthur lui prit donc la main et s'agenouilla près du lit. Malgré tout, elle paraissait encore jolie, la douceur de ses traits s'harmonisant avec la beauté angélique de ses yeux. Peu à peu, ses paupières se fermèrent et elle s'endormit. Pendant quelques moments, sa poitrine se souleva, s'abaissa lentement, régulièrement. À la voir respirer, on eût dit un enfant fatigué. Puis petit à petit se fit à nouveau ce changement étrange que j'avais déjà remarqué au cours des dernières heures. Sa respiration devint difficile, entrecoupée de râles. Sa bouche s'entrouvrit et les gencives blanches retirées rendaient les dents plus longues et plus pointues que jamais. Alors, dans un état proche de l'inconscience, elle ouvrit les yeux, le regard à la fois triste et dur, mais ce fut d'une voix douce et voluptueuse qu'elle répéta « Arthur, oh mon amour, je suis si heureuse, comme c'est bien que vous soyez là. Embrassez-moi. » Arthur se pencha à nouveau pour l'embrasser, mais à cet instant, Van Helsing, qui, comme moi, avait trouvé insolite le ton sur lequel la malade avait parlé, des deux mains le saisit par les épaules, le fit reculer d'un geste si violent que je m'aperçus avoir ignoré jusque-là qu'il avait tant de force, et l'envoya presque à l'autre bout de la chambre. « Malheureux, ne faites pas ça !» s'écria-t-il. « Ne faites jamais ça, par pitié pour votre âme et pour la sienne !» Arthur resta interdit, l'espace d'un moment, ne sachant que dire ni que faire. Mais à peine se fut-il ressaisi, et avant même de protester contre le geste apparemment impitoyable du professeur, il se souvint des circonstances et continua à demeurer silencieux. Il attendait. Van Helsing et moi ne quittions pas Lucie des yeux. Nous vîmes comme une convulsion de rage passer sur ses traits, et ses dents pointues se rejoignirent avec bruit, comme si elle avait mordu quelque chose. Puis, encore une fois, les yeux se refermèrent, la respiration devint difficile. mais elle rouvrit bientôt les yeux qui avaient repris toute leur douceur, et sa pauvre petite main blanche et décharnée chercha celle de Van Helsing, l'attirant à elle, elle la baisa. « Mon ami incomparable, » lui dit-elle d'une voix faible, tremblante, d'une émotion indicible, « mon ami incomparable, qui êtes aussi le sien ? Oh, veillez sur lui, et à moi, donnez le repos. » « Je vous le jure, » répondit le professeur avec gravité en s'agenouillant contre le lit et en faisant un serment, puis se tournant vers Arthur. « Venez, mon enfant, » lui dit-il. « Prenez-lui la main et déposez un baiser sur son front, un seul, vous m'entendez ?» Leurs regards se rencontrèrent au lieu de leurs lèvres, et c'est ainsi qu'ils se quittèrent. Les yeux de la jeune fille se fermèrent, et Van Helsing, qui avait observé attentivement pendant les derniers moments, prit Arthur par le bras et l'éloigna du lit. On entendit encore quelques râles, puis plus rien, plus la moindre respiration. « C'est fini, » dit Van Helsing. « Tout est fini. » J'emmenai Arthur, descendis avec lui au salon où il se laissa tomber dans un fauteuil, et le visage dans les mains se mit à sangloter. À le voir ainsi, moi-même, je perdis presque tout courage. Pourtant, j'allais rejoindre Van Helsing, que je trouvais toujours auprès de Lucie et continuant à la regarder, apparemment plus intriguée que jamais. Aussitôt, je remarquai que la mort avait rendu à la pauvre enfant un peu de sa beauté. Ni ses joues ni son front n'étaient plus tirés, même ses lèvres avaient perdu leur pâleur de cadavre. On eût dit que le sang, dont le cœur maintenant n'avait plus besoin, était venu colorer les lèvres pour atténuer l'effrayant aspect de la mort. Alors qu'elle dormait, nous la croyons mourante, maintenant qu'elle est morte, elle a l'air de dormir. Je me tenais à côté de Van Helsing et je lui dis « Enfin, la pauvre petite est en paix. Pour elle, les souffrances sont finies. »« Non, hélas, » murmura-t-il en tournant la tête vers moi. « Non, hélas, elles ne font que commencer. » Je lui demandai ce qu'il voulait dire. Hochant la tête, il me répondit « Il est trop tôt pour agir. Attendons, voyons ce qui va se passer. »